Bonjour à tous, vous êtes bien sur Micro-Ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant tous les samedis de 13h à 14h. Une émission d'actualité sur les injustices et les luttes en cours sur l'agglomération grenobloise. Pour cette deuxième émission de janvier, on voulait revenir sur les deux expulsions de campement ayant eu lieu à Grenoble en novembre dernier, effectuées par la préfecture ou la mairie selon les cas. Deux expulsions de plus de lieux de vie où les habitants tentaient de se construire une vie et des cabanes pour passer l'hiver. Deux expulsions de plus où des familles voient les bulldozers détruire ce qu'il reste de leurs affaires et doivent tout recommencer à zéro. Deux expulsions de plus où les familles ne sont relogées que suite à la mobilisation des habitants et des associations les soutenant, et bien souvent dans des coins isolés, accentuant encore plus leur marginalisation. À l'occasion de ces deux drames, Micro-Ondes voulait donner la parole aux habitants pour qu'ils puissent nous raconter leur vie sur un campement, les bons moments et les difficultés, les constructions et les expulsions. Mais la précarité, les difficultés de traduction et la peur des représailles ou de perdre son hébergement actuel ont été des barrières trop fortes pour réaliser des interviews d'habitantes. Alors nous donnerons la parole dans cette émission aux associations et aux militants qui les ont soutenus et dont certains ou certaines ont déjà vécu sur un campement auparavant. On commence avec Cyril, un voisin du campement Alliance, nous racontant l'histoire du camp et son expulsion. On écoutera juste après le début de 13-12, un morceau de rap collectif dénonçant les violences policières.
Moi, je m'appelle Cyril, j'ai 24 ans et j'habite juste à côté du parc de l'Alliance. Pendant le mois d'août est arrivé plusieurs familles d'Albanie et aussi de Macédoine. Et elles ont installé un campement, enfin des tentes, des constructions un peu précaires pour pouvoir survivre parce qu'elles étaient à la rue.
Il y avait combien de personnes à peu près ?
Ça a pu un peu bouger, mais on est quand même sur une soixantaine de personnes.
Je te propose qu'on fasse un peu le tour du parc et si tu peux me décrire un petit peu comment c'était au moment où il y avait le campement.
Alors déjà, à l'entrée du parc, là on voit qu'il y a un petit arbre et cinq bancs. Là, ils avaient installé un premier feu de camp où les gens se retrouvaient souvent le soir ou même pendant la journée pour pouvoir se réchauffer ou à peu près en commun. Et après, donc actuellement, on voit les traces de bulldozers qui ont rasé le campement en novembre. Mais il y avait une première ligne de tente un peu à côté des buttes là et sous les arbres. Là, il y avait quatre baraques un peu construites en palettes, en bâches, etc., etc. Et derrière la butte et à côté des jeux d'enfants, il y avait encore d'autres tentes et de baraques. Donc tu avais là une sorte de place qui s'était construite avec les feux pour cuisiner, etc., etc. Et les campements et les tentes des différentes personnes et des familles. Et à peu près devant toutes les tentes ou baraques, il y avait un coin de feu pour simplement pouvoir cuisiner et se réchauffer. Et ils avaient essayé d'installer des endroits pour essayer de faire sécher le linge quand ils arrivaient à pouvoir le laver ou des choses comme ça. Et voilà, au bout de 3 mois, plusieurs toilettes ont été mises à disposition par la ville. Et aucun lieu sanitaire, douche par exemple, n'a été mis en place. Pendant septembre, on avait déjà fait une fois ou deux des allers-retours avec un de mes colocataires pour récupérer des fringues dans des gratuiteries autour de Grenoble et on les a lavées chez nous pour les apporter propres aux familles. Et c'est début octobre, on rentre le soir à l'appart et on voit une pétition qui appelait à l'expulsion du campement. Donc ça m'a pas mal indigné. Et avec mon coloc, on a lancé une autre pétition soutenant l'accès aux droits à l'hébergement et au logement qu'on avait placardé dans tout le quartier et qui avait réussi à susciter pas mal de soutien sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 immeubles de 6 étages. Donc ça représente peut-être 300 foyers. On avait très très vite 150, 160 signatures. On est monté à 200 assez rapidement et beaucoup de gens du voisinage avaient été assez outrés aussi de la première pétition demandant l'expulsion. Début novembre, où sur Grenoble, il commençait un petit peu à neiger, à geler toutes les nuits. Il y avait plusieurs nuits où c'était descendu en dessous de moins 5, moins 8. Lundi soir, on arrive avec différentes personnes sur le campement pour voir comment ça se passe. Et les enfants étaient tous malades à cause du froid. Il y avait aussi différentes personnes, même adultes, qui tombaient malades. Et elles n'en pouvaient plus. Tout simplement, elles n'en pouvaient plus, en sachant qu'elles, pendant de septembre à fin novembre, début décembre, elles avaient déjà participé à des mobilisations et des manifestations devant la préfecture et devant aussi donc Place Verdun, et aussi auprès du service qui est censé s'occuper de l'hébergement des personnes qui sont sur le territoire. Donc c'est la cité administrative d'Aude derrière le commissariat de police. Et tout ça n'a pas amélioré leurs conditions, alors que le droit à l'hébergement est censé être automatique pour les personnes qui arrivent sur le territoire, qu'importe leur situation administrative. La mairie de Grenoble, administrativement, elle est censée s'occuper particulièrement de la santé et surtout la scolarisation des enfants de moins de 15 ans, donc c'est-à-dire école primaire particulièrement, et collège et lycée aussi, avec le département et la région. Et rien que sur le sujet de la scolarité des jeunes enfants en école primaire, ça a été très long. Il y a des enfants qui n'étaient toujours pas scolarisés fin novembre. Et donc le froid plus le non-aboutissement de l'accès au droit les a obligés à devoir engager eux-mêmes leur mise en sécurité. Et donc elle réfléchissait à entrer dans un lieu. Et c'est le mardi soir, je retourne sur le campement un peu plus tard. Et en fait, les familles étaient déjà entrées dans la bibliothèque quand je suis arrivé. Et avec une acceptation plutôt de la part des bibliothécaires qui, en plus, déjà étaient en lutte par rapport à l'application du pass sanitaire sur les bibliothèques. Il y a un élu de la ville, l'élu d'astreinte, qui est passé et qui avait annoncé que les familles auraient 2 jours de répit et que les négociations étaient entamées entre la préfecture et les services de la ville qui, depuis le début de l'installation du campement, faisaient plus ou moins des recensements. Et donc le lendemain, mercredi, tout le monde revient, on passe des appels, des coups de fil au 115, et on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles de la ville, pas de nouvelles de la préfecture. Il y a les personnes du CCAS et de la maraude de la ville qui étaient pas mal de temps avec nous dans la bibliothèque, mais qui ne donnaient pas d'informations. Il y a un moment, en fin d'après-midi, vers 16h, il y a un premier bulldozer qui arrive. Et on n'avait pas de nouvelles d'où il venait, pourquoi. Et donc tout le monde se dit, ça y est, ils veulent raser le campement, vu que les familles n'y sont plus dedans. Des familles et des soutiens ferment l'ouverture du campement, du parc, vu que c'est un parc qui est, où il n'y a qu'une seule entrée depuis la rue. Et donc le bulldozer ne peut pas rentrer, on leur demande pourquoi ils étaient là, ils nous donnent aucune information, ils repartent. Et une heure plus tard, vers 17h30, alors qu'on était en train de jouer avec les enfants dans la bibliothèque, on voit des camions de la police nationale entourer la bibliothèque. Des soutiens aux familles sortent pour leur demander qu'est-ce qu'ils prévoient de faire. Aucune information est donnée, on n'a jamais eu le cadre légal de cette intervention, vu que c'est un bâtiment de la mairie. Il faut que la mairie porte plainte pour qu'il soit évacué. Et donc la police nationale, donc, qui dépend de la préfecture, entoure la bibliothèque et à un moment commence à rentrer de force dans le bâtiment et à évacuer tout le monde de manière très violente. Donc il y a des enfants qui se sont retrouvés pieds nus dans la boue en sachant qu'il pleuvait ce jour-là. Tout le monde est à moitié tabassé, gazé par la police. Et donc à un moment la bibliothèque est entièrement évacuée, en sachant que personne n'ayant été prévenu de l'intervention de la police, les familles n'avaient pas pu regrouper leurs affaires, n'avaient pas pu reprendre leurs manteaux, reprendre leurs papiers. Et puis il y a eu un moment de flottement où la police entourait la bibliothèque, empêchait tout le monde de rentrer pour récupérer quoi que ce soit. Et du fait de la violence qui a été déployée, beaucoup de familles se sont enfuies. Et la police commence à avancer vers les tentes, vu qu'il n'y avait plus grand monde qui était du côté des tentes. Et on voit revenir les camions de la ville, de la déchetterie de la ville, donc bulldozer et tout le bordel, qui donc veulent atteindre le campement et donc le raser. En sachant que pendant ce temps-là, la police nous empêche d'accéder aux tentes pour pouvoir récupérer des affaires. Et ça doit être peut-être 2-3 heures après donc, cette intervention policière et le début de l'encerclement des tentes. Il y a un bus qui débarque. On n'avait pas d'informations de d'où il vient, qui l'affrète, pour aller où. Et il y a une personne de la préfecture qui dit, qui fait comprendre au soutien, faites monter les familles dans le bus. Et quand les familles demandent, il va où ? Il y a un agent de la police nationale, donc je pense le chef du bataillon qui est passé là, qui leur dit montez là-dedans, vous verrez où ça ira. Et donc les dernières familles qui étaient encore sur le campement s'enfuient définitivement parce que en gros ce qu'elles nous ont dit plus tard, c'est elles avaient peur d'être conduites à la frontière ou d'aller en centre de rétention administrative. Ce qu'on a appris après coup, c'est que ce bus qui était arrivé 3 heures après l'intervention policière amenait réellement vers un centre d'hébergement qui a été ouvert à Moiran, dans la zone d'activité de Moiran. Et donc à partir de cette nuit du mercredi, un centre d'hébergement pouvant accueillir normalement la soixantaine de personnes du campement était disponible.
Les familles actuellement elles sont hébergées à Moiran, mais en fait la situation ne s'arrête pas là. Et ce qui est très illustrateur de ce qui se passe maintenant, c'est que juste avant l'interview, on a rencontré, on est tombé par hasard sur une personne qui a fait partie des familles qui était sur le campement. Et donc on a cru comprendre que la situation n'était pas idéale pour tout le monde et qu'en fait ça ne s'arrêtait pas du tout à l'hébergement et qu'après il y a tout un tas de démarches à entreprendre pour... trouver un logement, être hébergé, avoir sa situation reconnue. Peut-être que tu peux nous en dire un tout petit peu plus au sujet de la situation actuelle des familles qui sont à Moiran.
J'ai pas pu retourner à Moiran ces derniers temps, mais les informations qui viennent, c'est une bonne partie des familles sont de confession musulmane et il aurait été servi du porc. Donc on voit un manque de respect total de la part des services qui ne prend pas en considération rien que le régime alimentaire des personnes qui sont censées héberger. Le centre d'hébergement, c'est un motel qui est en dehors de Moiran, avec très peu d'accès au bus, pas d'école à côté. Et bien sûr, pour les démarches administratives des familles, des complications, parce que venir sur Grenoble pour venir à l'OFI, pour continuer de suivre leurs démarches administratives et bien sûr avec aucun accès au travail, aucun accompagnement quoi, c'est ça qui est. Donc il y a des toutes petites chambres, donc vivre plusieurs mois dans une toute petite chambre de motel, c'est pas non plus fameux. Pas d'accès à une cuisine, donc si les familles veulent préparer elles-mêmes leur repas, qui est pour moi je pense déjà un minimum pour l'accès à la dignité, pouvoir préparer soi-même sa bouffe, etc. Ça leur est refusé. J'ai pas pu reprendre encore de contact avec les familles.
Et pour autant, toi, tu as continué ton engagement en t'investissant ailleurs actuellement.
J'ai de fait de soutien à côté du campement. J'ai pas mal rencontré des personnes particulièrement du droit au logement qui avaient accompagné les luttes, particulièrement l'organisation des manifestations auprès de la préfecture courant le mois d'octobre. Je vais continuer un petit peu de m'engager auprès de cette association qui lutte pour l'accès aux droits de ces personnes, mais aussi de beaucoup d'autres qui sont à la rue et qui du fait de son expérience des luttes depuis les années 80 pour l'accès au logement et à l'hébergement, revendique l'application de la loi réquisition, qui est une loi qui existe en France depuis les années 45-50, qui a été appliquée quelques fois, mais toujours sous la pression. La mairie et la préfecture peuvent se mettre d'accord pour obliger les propriétaires d'un bâtiment à ce qu'il soit mis à disposition de différentes personnes dans des situations de précarité. Et donc cette loi ne, est une obligation auprès des propriétaires contre une indemnité de l'État d'ouvrir des logements pour un cadre spécifique qui est donc sortir des gens de la rue ou sortir des gens du mal logement, donc conditions insalubres d'habitat ou des choses comme ça.
Okay. Donc la lutte continue. Merci beaucoup Cyril pour tout cet entretien et bon courage pour la suite.
Malik Oussekine, Makome, Amin ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute, la police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « mais que fait la police ?», nous répondons
« 18 morts par an, qui osent encore parler de bavure et mentir aux parents. Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13, 12, c'est nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition et par nature cruelle, la police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle.
Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude. Lassitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence si t'as pas de fortune. Ah, cap dans la tribune, nique la baque au coin de ma rue. Flashball sur nos figures, manif et point de suture. Massifs sont les bavures, injustice en couverture. Steve, s'il y a des bounades, sont pas les procédures. Rémi, Cédric et Adama, la police tue.
La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à travers tablette et smartphone. Pourtant ça fait un bail. Ah ouais mon vieux, depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits qui foutent le feu dans mes artères à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les victimes. Yeah.
Devant une personne âgée ou un gamin de la tête, regarde, il propage la guerre en tant que gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas que des garibous parmi tous ces types. Mais le bon flic a frappé Geneviève, va-t-il pousser Steve? Ni venant de Paris sous les tirs, ils ont fait nous des quilles. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malik Oussekine.
Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité des campagnes aux quartiers confinés cités. Des terres alors prends la rue et crie bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors.
Yeah, j'dis c'est que nos propres. Tu kiffes tes proc, ça veut briser nos blocs. Remixer le 17 octobre. Viser le pogrom, leur ostracisme est colossal. Police, militant, antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qui en était gentil. L'État les fera tirer pour protéger les nantis. Puis les fera quitter, t'espère transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique.
On enchaîne tout de suite avec Diana et Julien, deux membres de l'association Madame Rutabaga, ayant longtemps travaillé sur le campement des Alliés. L'interview se terminera par Zemer de Soul King et Duratadora, en dédicace aux enfants du campement. Diana et Julien de l'association Madame Rutabaga. Vous avez du coup travaillé un certain temps sur le campement des Alliés. Oui. Est-ce que vous avez envie de nous raconter ce que vous y faisiez et...
Tous les mercredis, on faisait des ateliers avec les enfants. On ramenait des jouets, on passait notre temps avec. Et après, on a fait des goûters avec les enfants et tout. On a parlé...
Pour les gens qui ne connaissent pas forcément le campement, il y avait combien d'enfants qui vivaient à peu près là-bas?
Je dirais vers une trentaine.
Effectivement, ouais, ça a pu varier sur l'atelier. Nous, on a été proches de certaines familles. Régulièrement, une 10-15 de personnes d'enfants, plus les adultes là, plus des enfants qui venaient aussi d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous avez l'impression que vous apportez justement dans les campements ou bien comment vous voyez votre travail quoi,
Mon travail pour moi en fait je l'aime trop travailler parce que ça fait déjà 5 ans et demi, 6 ans que je suis tout le temps Madame Rutabaga, aussi quand je ne travaillais pas. J'étais tout le temps là et je connais tout, donc Rutabaga, en fait, je connais tous les endroits qu'on a passés, qu'on a fait ensemble, les ateliers aussi quand je ne travaillais pas. Comme ça dire, c'est plutôt comme de ma famille, les gens de Rutabaga, parce qu'en fait, il y avait plein de personnes qui sont passées, qu'elles m'aidaient quand j'habitais dans un campement. Et bien là, maintenant que je suis et je travaille, en fait, c'est grâce à l'association que j'apprenais plein de choses. Et bien ça, c'est un truc spécial, parce que c'est pas que quand tu travailles, c'est juste que tu travailles. Mais quand tu travailles, tu dois aimer ton travail, quoi. Et moi, je l'aime pour ça parce qu'il y a plein de choses quand j'entre en Rutabaga, je vois. En fait, ça, tout de suite, ça me rappelle qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que j'ai fait avant d'être maintenant, qu'est-ce que j'ai. Plein de choses. Et ça, c'est un truc que ça me touche, quoi.
Et cette question de la durée, c'est-à-dire des fois, j'ai l'impression que vous allez être avec les mêmes enfants juste pendant 2 mois. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est important quand même? Ou est-ce que des fois c'est difficile, c'est frustrant?
Les enfants qu'on voit peu, ça serait plutôt l'exception, la majorité des enfants. Et on les connaît, enfin du coup moi je les connais depuis que je suis rentré dans l'association. Mais en fait ils connaissent l'association depuis bien plus longtemps que moi. Ils connaissent en fait Madame Rutabaga et son fonctionnement. Parfois bien mieux que, enfin ou aussi bien, parce que c'est pas la peine de se hiérarchiser après tout. Mais ouais, tout le monde voilà, s'est approprié. Et c'est plutôt des relations vraiment de long terme, d'années. Enfin sur la place du coup c'est... la plupart des familles avec qui on a travaillé, on a joué plutôt, ouais. C'était les mêmes depuis le début. Il y a eu quelques changements, il y a parfois ponctuellement des enfants qui viennent moins longtemps. C'est pas forcément évident ni facile. Clairement, il faudrait pas se leurrer encore une fois sur ce que c'est le travail d'animation, le travail avec les enfants, mais par contre ça va vite aussi. Et le temps, c'est ça. Du coup, on y va sur des ateliers de 2 heures, donc toutes les semaines. C'est ça aussi pour remettre un peu, donc ça va... Et c'est la régularité aussi, c'est au cœur du... c'est vraiment ce qui crée la confiance, qui crée le lien. Donc on travaille dans la rue, et en fait quand il fait froid, quand il fait chaud, on vient aussi. Et on compte les enfants. Voilà, on se tient au courant si on vient, on se tient au courant si on ne vient pas. Et ça fait que les choses vont aussi très vite, parce que d'un coup on compte un peu les uns sur les autres. Et avec nos conflits, avec nos conflits, nos plaisirs. Mais en tout cas, on compte les uns pour les autres. Pas parce qu'on se doit quelque chose, je sais pas quoi, mais non, juste on compte, c'est important, et on l'a signifié. Un des trucs pour expliquer un peu ce qu'est notre mission à Rutabaga, ce serait de créer des espaces publics de convivialité, et donc pour ça on sert notamment du jeu, évidemment, sous plein de formes, que ce soit auprès des plus petits ou des plus grands, pour ce qui va être les enfants ou de la création aussi. Un petit café, un petit thé et des temps de goûter aussi, des temps de repas collectifs finalement qu'on confectionne ensemble et qu'on se partage. C'est un truc qui m'a beaucoup plu dans Rutabaga, cette simplicité autour d'un bon jeu, d'un jeu et d'un repas, je dirais. Et je crois que ça crée, c'est un truc qui est vecteur de lien et de rencontre, du coup, parce qu'il y a de ça, clairement. On essaye de se rencontrer, et de là en fait on découvre clairement de quoi on a besoin les uns les autres et éventuellement ce qu'on peut faire. Je dirais que c'est un peu ça ce qu'on essaye de faire.
Et comment cela s'est terminé entre guillemets? Pourquoi vous ne retournez plus travailler là-bas?
Elle avait plus d'enfants et on ne pouvait pas retourner faire les ateliers qu'on a faisait.
Est-ce qu'il y a encore des familles qui vivent sur le campement?
Non.
Okay. Tout le monde s'est fait... Parce que, est-ce que toutes les cabanes ont brûlé dans l'incendie?
Pas tout, mais la majeure partie, oui.
Okay. Et du coup, donc, quelle a été la réponse à ce moment-là de la mairie, ou bien qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, j'étais pas là sur le coup qu'on était à la mairie et tout. Mais j'étais là le lendemain que j'ai vu brûler. En fait, moi j'avais peur parce que je ne savais pas s'il y avait des blessés ou pas. parce que j'allais souvent à faire des ateliers avec les enfants, j'étais un peu inquiète pour eux. Et ben après, le lendemain, on allait les voir, les personnes qui sont restées. Et on a parlé avec une dame qui est restée là-bas. Elle n'avait pas mangé, elle n'avait rien du tout, en fait. Le soir, c'est nous qu'on a fait la soupe pour le camp. Je te laisse la parole.
Effectivement, quand il y a eu le jour de l'incendie même, il y a eu rapidement eu des moyens de mise en relation du milieu militant. Donc on a été mis au courant de ce qui se passait. Donc on est venu voir effectivement si tout le monde allait bien. Rapidement, on a su qu'il y a a priori pas trop de blessés graves, mais qu'il y avait un gros dispersement. Du coup, on ne saurait pas pendant longtemps s'ils pourraient réaccéder au camp, connaître l'étendue des dégâts aussi. De là, par divers moyens, il y a un gymnase qui a été ouvert, clairement, entre autres grâce au rassemblement de pas mal de militants. Ça a été compliqué. Parce que en fait, il y a des manques de moyens de confiance aussi avec les représentants de la mairie, tout ça. C'est compliqué le lien, du coup. Il y a eu un gros travail militant pour se dire qu'on allait passer du temps au gymnase. Et malheureusement, ça s'est pas très bien passé en plus dans la nuit. Fait que tout le monde est reparti un peu à la rue, est reparti un peu. Malheureusement, c'est pas où pour beaucoup de personnes. Ça, c'est que les solutions qui ont été proposées, elles sont. Ne sont pas toujours adéquates aussi, pardon, pour revenir là-dessus, parce que là, c'est des hôtels, mais du coup, c'est dans les hôtels, les conditions... c'est des hôtels, donc il y a des lits, tout ça, mais notamment autour de la question de l'alimentation, ça peut s'avérer compliqué. Des fois, c'est loin, des fois, ça sépare les familles, pour des raisons médicales aussi, ça peut être compliqué de parfois fournir les médicaments, de pouvoir finalement faire de la continuité aux soins, pour les personnes qui se retrouvent logées finalement loin de Grenoble, voire dans des zones recluses un peu plus ou moins. Mais en tout cas, on a passé effectivement après une soirée, il y a Diana qui... on a pris aussi du temps, Diana a pris du temps pour recueillir leurs paroles aussi, pour avoir leur version, en fait, parce que de ce qui s'était passé aussi, et de ce que c'était la vie sur le camp, parce qu'il y a... Il y avait aussi une espèce de réaction à des articles qui étaient parus et qui donnaient leur... d'autres versions, leur version, j'ai envie de dire, de ce que c'était la vie sur le camp et des causes de l'incendie, tout ça. Donc il y avait l'envie de permettre de porter une autre version.
Est-ce que, justement, vous avez envie de parler de cette autre version, entre guillemets, c'est-à-dire... Quelles sont les rumeurs qu'on entend régulièrement sur la vie sur un campement, etc. Et finalement...
Moi, je peux le dire parce que j'ai déjà habité dans un camp. En fait, c'est pas comme les gens pensent que c'est facile, qu'on habite là-bas, qu'on fait des bêtises et machin. On est juste là parce que quand tu habites sur un campement, il y a beaucoup d'insultes et tout. Elles te traitent tout de suite, tout romain, t'es sale, machin, tu pues. C'est difficile pour les gens, en fait. C'est pas qu'on est hébergé, on a un logement, on peut aller à l'école propre et tout, machin. Moi, j'habitais sur l'école, des fois, je voulais pas aller à l'école parce que j'avais quoi à prendre ma douche, ou être propre. J'avais honte parce que j'avais 16 ans, je voulais pas aller à l'école comme ça. Les gens sont comme ils sont. On les respecte parce qu'ils sont. On peut pas dire c'est eux, il y a à la maison. En fait, que je sais pas quoi, que le mieux que nous, qu'on habite sur un campement, c'est la même chose, juste que on n'a pas choisi notre vie, nous, quoi. C'est aussi pour moi, c'était difficile, et pour mes frères surtout. C'est difficile d'habiter dans un campement, surtout quand tu vois tout le temps ta famille et tout, autour de toi, ou quand tu as des petits frères et tout, et tu peux pas faire rien du tout. Sauf que tu peux voir et c'est tout, quoi. Et l'insulte, en fait, on habituait tout le temps que quelqu'un dit « Vous êtes des Roumains, vous êtes ça » par rapport à tous les gens, je dis général, quoi. Moi aussi, je suis pas roumaine, mais des fois, ça arrive qu'ils me disent que je suis un Roumain comme j'habitais sur les campements et tout, machin. Mais je trouve que les personnes qui habitent dans un campement, c'est pas qu'elles habitent pour un plaisir. En fait, parce qu'il n'y a pas de chance, quoi. Il n'y a pas de solution de logement. Parce que si on avait, j'ai dit en général, pour tous les campements, pour tous les gens que l'été sous des campements. C'est pas que eux le voulaient, mais elle avait pas la chance en fait.
Est-ce que finalement 2 ans et demi c'est beaucoup entre guillemets pour la durée d'un campement?
Ouais, clairement. Là, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant.
Ouais, parce que moi j'habitais à Le Camp, les Alliances, et quand le terrain était expulsé, avec mes frères et ma mère, on était expulsés quoi. Après, on était hébergés dans un hôtel et tout. Mais à côté de les Alliances, elle avait un petit terrain que nous habitions souvent là-bas. Et ben après, on était expulsés aussi dans les hôtels et tout. Et ben on a resté sur les campements. Et ben elle a duré beaucoup de temps, cette campement, 3 ans presque. On a resté là.
Mais ça, c'est beaucoup par rapport à d'autres endroits.
Et du coup, effectivement, il y a eu des endroits, enfin, la plupart des campements qu'il y a eu sur Grenoble. Je serais bien incapable de malheureusement tous les citer aussi, mais la plupart sont beaucoup plus courts. Il y a eu, Diana, où tu as pu vivre, et aux Alliés, c'est des situations plutôt exceptionnelles, en fait, que ça dure aussi longtemps. 2 ans et demi, voilà, là il y avait une situation assez pérenne, les gens étaient relativement installés pour une partie d'entre eux, dans un cadre très précaire, hein, comme décrivait Diana, faut pas non plus s'imaginer des choses, quoi. Donc nous, 2 ans et demi, ça permet de créer aussi des liens qui sont différents, ça permet il y avait une certaine stabilité malgré tout dans le logement, malgré la précarité. Il y avait eu jusque-là moins de pression sur l'expulsion. Et ça permettait aussi un travail un poil plus serein, on va dire, d'autres travailleurs sociaux qui pouvaient venir, d'autres associations, que ce soit l'Oiseau Bleu ou la Métro, qui travaillaient aussi sur la place. Et voilà, donc c'était quand même, c'était plutôt unique comme situation. Alors après, est-ce que c'est beaucoup mieux? Enfin voilà, je suis pas sûr que ça pose aussi des questions de pérenniser des situations précaires comme ça. Mais bref. Ça permet aussi de créer du lien sur la durée. Ça, c'est quelque chose qui est assez précieux, une petite forme de stabilité à laquelle se raccrocher.
Concrètement, sur un campement, est-ce que l'accès à l'eau est facile? Est-ce que l'accès à l'hygiène est facile, ou à l'électricité, ou des choses comme ça? Est-ce que...
Normalement, dans tous les campements, oui, c'est compliqué. C'est pas facile avec un hygiène, surtout quand tu es un fille, quoi. Ça sert beaucoup de choses pour un fille et tout, et c'est compliqué habiter sur des campements, parce que ma mère, quand on habitait sur le campement, elle prenait des bidons, elle allait chercher d'eau parce qu'elle avait pas, et en plus en hiver c'est difficile faire le chauffer machin, et t'es obligé à prendre comme elle est, quoi, gelé, c'est obligé, quoi, parce qu'on allait à l'école et tout. Et en fait j'ai déjà travaillé au campement de les Alliés. En fait, ça me faisait la peine parce que, en fait, j'ai déjà passé qu'est-ce qu'elles vivaient les autres, en fait. Et je le comprenais, quoi. C'est cool aussi pour moi aussi. Quand je parlais pas le français et tout, machin, j'aimais que moi, je parlais italien. Et comme elle avait un fille, Aruta Baguette, qui parlait italien, pour moi, c'était mon rêve, quoi. Et je le comprends. Mais c'est bien, par exemple, quand t'habites tous les campements, tu demandes plein de choses qu'on t'a pas. C'est bien quand tu comprends quelqu'un ou quelqu'un te comprend. Quand elle voulait quelque chose demander et tout, elle me parlait, j'ai fait des traductions et tout, machin.
Est-ce que, j'en sais rien moi, la mairie par exemple, ou j'en sais rien, ou la préfecture, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait les gens font quelque chose pour que la situation s'améliore, ou c'est plutôt un éternel recommencement et pas d'amélioration depuis des années, ou des choses comme ça?
En fait, pas trop, parce que nous ça fait déjà 6 ans qu'on est là. Ma mère, elle était jamais hébergée. Ouais, dans un hôtel, mais pas dans un... On n'a jamais vu d'un logement social. Et en tout, on est en 6, 7, 6. Et bah, en fait, tu vois, c'est pas trop la préfecture et tout, machin. Mais après, je sais pas. Peut-être ma mère, elle a pas bien fait ses démarches. Ça dépend. Je peux pas juger ni ma mère, ni les autres. Oh, il y a des gens, il y a beaucoup de monde, parce que il n'y a pas la place pour tout le monde, quoi. Je suis pas là pour juger, mais des fois, ça saoule. Quand t'es dehors et tout, et tu vois qu'il n'y a pas de solution, quoi. Et en plus, quand t'es un maman au sol avec 6 enfants et tout, machin, c'est un peu compliqué. C'est pas juste pour ma mère. Il y a plein de plus des dames que j'ai vues sur la roue qui ne sont pas hébergées et qu'il n'y a pas de solution tout le temps, le 115, le 115, mais elle ne fait rien du tout. Ma mère, elle appelait pour 4 ans, 5 ans, elle appelait le 115. Jamais rien. Tout le temps, elle dit, bah, si t'as pas papier, il n'y a rien. Bah, ça veut dire, si j'ai pas papier, j'ai dort pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'étais en foyer avec ma fille. Et en plus, j'avais pas des papiers. Et en plus, avec 6 enfants, bah, pour moi, c'est pas, en fait, trop bien. Je peux pas, en fait, je peux pas faire la loi, mais comme je veux que ma mère, elle a passé plein de choses dans sa vie, en fait, des fois, ça m'énervait. Aussi, j'avais 16 ans, mais j'étais énervée. D'à cause de l'eau froide, elle a mis dans la bouteille de l'eau chaude pour faire tenir chaude à mes frères. Et mes frères, elles étaient tout petits.
C'est vrai qu'il y a une répétition dans les... Effectivement, chaque situation est plus ou moins unique, mais il y a quand même des choses qui se répètent. Enfin, tu parlais du camp de l'Alliance, du coup, qui était juste à côté, qui est une situation, finalement, qui a, d'une certaine manière, rien à voir. C'est pas, enfin, bref, sans entrer dans les détails, c'était encore une autre histoire, et ils ont été expulsés. Enfin, régulièrement, il y a des expulsions. Il n'y a pas de solution, comme dit Diana. Régulièrement, le 115, le 115, mais en fait, le 115 est complètement débordé. Ça date pas d'hier, clairement. Et toutes ces choses-là, il y a le DAL par exemple qui a un mot d'ordre en ce moment qui dit un truc du genre qu'il y a 50 000 logements, me semble-t-il, vides juste en Isère. Bon, bah voilà, je crois que il y a des solutions en fait. Il y a la loi aussi, il y a des lois de réquisition qui existent. Et c'est pas forcément les. Où je suis plus à l'aise non plus après pour m'exprimer là-dessus, mais il y a clairement des voix qui portent et qui expriment des solutions très claires là-dessus et qui ne sont pas écoutées. Enfin, il y a aussi des solutions. Le 115, il y a plein d'associations, il y a plein de mots d'ordre qui sont passés que ça fait des années que c'est débordé, qu'il n'y a pas de solution, enfin, qu'il y a des lieux vides et qu'on nous répond qu'il n'y a pas de solution, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire en fait aussi ailleurs, politiquement.
J'espère qu'elle va tout le monde, elle va bien. Et j'espère un bon année pour tous les enfants, pour les parents et tout, machin. Surtout pour le Pucci et tout, je crois qu'un jour, elle va trouver un hébergement, un vrai hébergement pour toutes les familles et tout qui ont besoin. C'est pas juste pour les Roumains, mais c'est pour tout. Pour Macédon, Croate, Serbe, Français, c'est juste que... Elle trouve des solutions. Et après, c'est pas qu'elle cherche. L'unique solution qu'elle cherche pour les gens, surtout pour les Gitans, les Roumains, l'expulsion d'un campement. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens français, n'importe laquelle race, espagnol, et travaillent avec des gens sur des camps. Et elle voit. J'espère que quelqu'un veut des fois aller dans un campement pour voir juste comment sont les gens. Et pas juger juste que tu juges. Ben, tu dois aller les voir pour juger. Parce que moi, j'y allais. C'est pas facile de rester dans un camp, avec surtout quand t'es maman, t'es avec des enfants, t'as pas d'eau, t'as rien en fait. C'est difficile et j'espère qu'elle va mieux, tout le monde.
Merci à vous deux.
Merci à toi.
D'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à toi.
Et puis, à bientôt.
Tu me dis ça, ah c'est comme ça, je vais pas te forcer. Pour toi j'ai quitté mon passé, mais non ça, et tu le sais.
Thought you love me crazy, thought you love me crazy, but t'aimes dans les champs fake. beso, un beso va tu faire. Beso, beso, juste un beso tu.
Ouais, c'est que des mots, mais c'est véridique, j'te parle du cœur et le cœur ne sait pas mentir.
Si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête, mais peut-être qu'on se reverra. Rababa, yeah, yeah. Tu me diras que personne n'est parfait, on s'est juste loupé. Ya ya ya. Tu n'y crois pas, mais je sais que t'es ma future. Ouais, t'es ma future. Je sais que t'es ma future.
Chaque ma chambre c'est on, qui mon hiver c'est pas mon mot de fond. Si elle fait tort, je sème le mal que tu, sème le mal que tu, oh sème le mal que tu.
Tu n'y crois pas, mais je sais que t'es ma future. Ouais, t'es ma future, je sais que t'es ma future.
Summer, oh summer, cet état je me sens un peu dit quand j'étais galant.
Summer, je fais pas summer.
Termine ce sujet avec une lecture de la brochure Tranche de patate, racontant quelques épisodes vécus par ce collectif.
Extrait d'une tranche de patate chaude, histoire d'un collectif de soutien aux Roms de 2011 à 2015. Cette brochure a été réalisée par le collectif La Patate Chaude pour revenir sur 5 ans de lutte en soutien aux Roms. Vous pouvez la retrouver sur leur blog. Collectif 16 septembre.wordpress.com. Camp de Stalingrad. Hiver 2011, un groupe de demandeuses et demandeurs d'asile roms d'ex-Yougoslavie se trouve contraint de dormir dehors. Ils campent tout d'abord devant la gare de Grenoble, mais en sont vite chassés par la police. Ils s'installent alors au square Jean Massé, dans un quartier un peu plus excentré, où ils sont moins visibles. Des organisations diverses, dont la Patate Chaude, leur rendent visite et s'efforcent de leur venir en aide. Suite aux protestations de celle-ci, la préfecture finira par mettre les demandeuses et demandeurs d'asile à l'abri dans un hangar sommairement aménagé pour l'occasion, rue Prosper-Mérimée. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Les personnes qui sont restées à la rue s'installent donc sous tente, juste à côté, sur un terrain vague du quartier de la Capuche, tout près de la très passante rue de Stalingrad. Peu de temps après, en pleine campagne pour les élections cantonales, les services du Centre communal d'action sociale, CCAS, de Grenoble interviennent sur le camp. Des membres de la Patate Chaude qui y assistent sont atterrés par le déroulement de cette action, qui s'avère un fin mélange d'autoritarisme paternaliste et d'humanitarisme censé faire passer la pilule. Le collectif publiera sur son blog le texte suivant. Mercredi 16 mars 2011, 18h30. La plupart des tentes ont disparu, laissant de grands emplacements vert clair sur la pelouse. Plus loin, le directeur de cabinet du maire discute avec des voisins. Il nous explique que la mairie déplace simplement le campement de 300 mètres et que ses occupants étaient volontaires. Il ajoute que c'est pour leur confort, car il y a un point d'eau à cet endroit, ce qui permettra d'y installer des sanitaires. Et puis, des voisins se sont plaints. La fumée des feux de camp entre dans leur appartement, situé à 100-200 mètres de là. Et il y a du bruit la nuit. Il est tout de même normal que les gens puissent jouir de leur bien tranquillement, nous affirme Olivier Noblecourt, chargé de l'action sociale à la ville de Grenoble et vice-président du CCAS. Nous croisons des gens du campement. L'un d'eux se plaint du fait que 20 jours après leur installation, on leur fasse à nouveau déplacer leurs tentes pour les mettre à l'emplacement qu'ils utilisaient jusque-là comme toilette. L'adjointe d'Olivier Noublecourt nous assure avoir demandé leur avis aux demandeurs d'asile la veille avec l'aide d'un traducteur. Pourtant, de plus en plus de personnes manifestent leur colère et leur incompréhension. Et pour cause, les gens ont été déplacés en direction de la bifurque, hors de la vue des passants de la rue de Stalingrad, à l'endroit où le terrain se rétrécit, coincé entre la piste cyclable et une butte de terre. Ici, il n'y a pas d'herbe et les tentes baignent dans la boue. Ceux qui ont des palettes les installent en dessous pour éviter les inondations en cas de pluie. L'endroit est bien moins éclairé que l'emplacement précédent, puisqu'il n'y a de réverbère que sur un côté, masqué par des arbres, et manque de bol, le réverbère le plus proche ne marche pas. Enfin, question point d'eau, nous constatons qu'il y en avait un tout proche de l'ancien emplacement. Quand on enlève les arguments TOC, il ne reste plus guère que la fameuse « tranquillité publique » pour expliquer finalement ce déménagement. Évacuation du camp Stalingrad. Finalement, en avril 2011, le préfet a ordonné que toutes les demandeuses et demandeurs d'asile de Stalingrad soient hébergées comme il se doit. Difficile de dire avec certitude ce qui a motivé ce revirement. Plusieurs choses ont pu peser dans la balance. Le fait que nous ayons averti les médias, qui ont réalisé plusieurs reportages qui pointaient les manquements de la préfecture, les référés hébergements réalisés par les avocates conjointement avec l'ADA, association d'accueil des demandeurs d'asile, suite auquel la préfecture était le plus souvent condamnée à verser une indemnité de 100 euros par jour à chaque personne demandeuse d'asile non logée, l'organisation, par nos soins, de rencontres avec les voisins pour leur expliquer la situation et les encourager à se solidariser avec les gens du campement, la nuit solidaire organisée conjointement avec la coordination iséroise de soutien aux sans-papiers et une vingtaine d'autres organisations, le passage prévu de la manifestation du 28 mai contre le racisme par le campement, et probablement aussi la crainte du préfet de voir les associations humanitaires entrer à leur tour dans la contestation, comme le démontre le fait que les deux seules fois qu'il les a reçues en préfecture, alors qu'elle le lui demandait depuis des mois, c'est lorsque des nuits solidaires ont été organisées. Quoi qu'il en soit, l'histoire de cette mobilisation et la victoire partielle obtenue prouvent que la lutte peut être payante. Mais un peu plus loin sur le même terrain, il y avait des Roms roumains qui avaient construit des cabanes. Il ne s'agissait bien entendu pas de demandeurs ou demandeuses d'asile, puisque la Roumanie fait partie de l'Union européenne, et qu'il est donc hors de question que la France accepte des demandes d'asile de ressortissants de ce pays. Cette famille s'était installée là car elle avait été chassée ces derniers mois de plusieurs autres lieux, dont le camp du Rondeau. D'après eux, quelqu'un de la mairie de Grenoble leur aurait dit qu'ils pouvaient rester sur ce terrain vague, car aucun projet de travaux n'y serait réalisé avant 2013. Pourtant, le vendredi 6 mai 2011, lors de l'évacuation finale du campement de demandeurs et demandeuses d'asile, une escouade de policiers et d'employés de la mairie de Grenoble sont venus les déloger et détruire leurs cabanes sous leurs yeux. Des personnes de la bifurque, situées juste à côté, ayant assisté à la scène, leur sont venues en aide et ont interrogé le personnel de la mairie présent sur place, dont le directeur général adjoint en charge de la solidarité, qui leur a assuré qu'une solution serait trouvée dès le lundi suivant. En attendant, des membres de la bifurque, du squat mini-tube et de la patate chaude ont organisé conjointement la solidarité pour que la famille passe le week-end dans les meilleures conditions possibles. Mais dimanche matin, avant que nous n'arrivions, la police nationale, estimant sans doute que ces Roms bénéficiaient d'un trop grand confort, est venue les asperger de gaz lacrymogène et enlever leurs matelas et couvertures pour les jeter à la déchetterie. Finalement, c'est par le biais d'Olivier Noblecourt que nous apprendrons qu'il est hors de question que la mairie ou le CCAS fassent quoi que ce soit pour cette famille. Heureusement, la famille n'a pas attendu les autorités publiques et a trouvé toute seule une petite maison aimablement mise à leur disposition par un propriétaire décédé. Expulsion du camp de Saint-Martin-de-Vinou. Mercredi 27 novembre 2012 a commencé la campagne d'expulsion directement programmée par le pouvoir PS local et la préfecture. L'objectif des élus locaux était de se démarquer de l'époque sarkozyste, pendant laquelle les expulsions étaient accompagnées pendant plusieurs jours d'un harcèlement policier visant à détruire moralement leurs victimes pour qu'elles quittent la France. Pourtant, dans les faits, les personnes expulsées n'ont pas été tellement mieux traitées que lors des précédentes expulsions de squat et de campement. Pendant les semaines qui ont précédé l'opération, les habitantes et habitants du camp ont été volontairement maintenus dans l'ignorance des projets les concernant. Et bien évidemment, ils et elles n'ont jamais été consultés. Le préfet avait interdit la divulgation de la date, pourtant décidée bien avant l'expulsion. Les mairies concernées, les représentants du CCAS de la ville de Grenoble et de la métro, et les associations associées aux prises de décision, ne l'avaient pas divulgué aux habitantes et habitants du campement non plus, les laissant mijoter dans l'attente et l'angoisse. C'est donc seulement la veille de leur expulsion que la police est venue placarder un arrêté les avertissant de l'opération. Et la mauvaise surprise a été de taille. Plutôt qu'un simple relogement, c'est une véritable opération policière qui s'est abattue sur le camp. Bouclage de celui-ci par la police, les habitants ne pouvant en sortir qu'après décision des policiers, et un passage obligé devant les bureaux que la préfecture avait installés pour effectuer les contrôles. Bilan, 7 assignations à résidence avec obligation de signature quotidienne à l'hôtel de police, plusieurs placements en centre de rétention administrative, des obligations de quitter le territoire français, au QTF, sous 48 heures pour certaines, et 14 enfants en passe de voir leur année scolaire ruinée, car l'organisation du transport scolaire pour un maintien de leur scolarité dans leurs établissements d'origine est incertaine. On a détruit sans vergogne, certes cette fois pas sous leurs yeux, les baraques qu'ils s'étaient construites, et qui contenaient encore les biens qu'ils n'avaient pas pu transporter à la main. 80 personnes ont été réparties en différents endroits de l'agglomération. 50 places sur un terrain à fontaine, et une dizaine en hôtel ou en foyer pour les familles, des places au gymnase Vieux-Temple pour les personnes seules, mais pour 5 jours seulement, et le centre de rétention administrative pour certaines. Expulsion du bidonville Esmona. Au cours de l'hiver 2013-2014, des personnes expulsées de différents camps ou squats situés sur plusieurs communes de l'agglomération se regroupent à côté du rond-point de l'avenue Esmona, au sud de Grenoble. Un nouveau bidonville s'y crée progressivement, qui accueillera de plus en plus de monde. Comme à chaque fois, il se trouve des riveraines et des riverains pour considérer qu'ils sont les premières victimes de cette situation. Ils protestent et s'organisent au fil du temps pour demander l'évacuation du camp, soutenu notamment par l'opposition de droite et d'extrême droite à la mairie de Grenoble. Le 6 mars 2015, en conseil municipal, Éric Piolle répond à une question à ce sujet, en exprimant sa volonté de ne pas faire expulser le bidonville, mais au contraire, de trouver une solution humaine en lien avec l'État et les collectivités territoriales. Mais le 18 mai suivant, alors qu'il sort d'une réunion en préfecture, il déclare aux médias qu'il a décidé de faire démanteler le camp. À contre-pied de son intervention en conseil municipal 2 mois plus tôt, il invoque pour justifier une expulsion prochaine du bidonville les habituels arguments auxquels recourent les pouvoirs publics. Pourtant, à ce stade, aucune solution n'a été trouvée. Quant aux habitantes et habitants, ils n'apprendront le sort qui leur est réservé que le lendemain, lorsque les médias viendront sur les lieux pour interviewer des associations. En juin, une intervention policière aura lieu pour recenser les personnes vivant sur le bidonville. En réalité, cette intervention policière permettra surtout de recueillir des données personnelles afin d'établir des OQTF qui seront massivement distribués le 24 juin suivant. La mairie lance alors une procédure d'expulsion par référé auprès du tribunal administratif, mais celui-ci rejette sa demande. Elle se tourne alors vers le tribunal de grande instance, saisi également par le conseil départemental. Leur requête doit être examinée le 6 août, mais dès le 27 juillet, la mairie publie un arrêté pour pouvoir expulser le campement sans attendre de décision de justice. Le jour de l'expulsion, le 29 juillet, 140 personnes sont recensées sur place, alors que 400 personnes y vivaient au mois de juin. Beaucoup des habitantes et habitants ont préféré partir suite aux coups de pression policiers qui ont eu lieu tout au long du mois de juillet et fuir l'expulsion, les humiliations et les risques d'arrestation liés aux OQTF. Plusieurs familles n'en sont pas moins placées en centre de rétention administrative. Alors que l'opération est médiatisée au niveau national comme une expulsion propre, au cours de laquelle tout le monde aurait été relogé, seul un tiers des personnes présentes sur le campement ce jour-là bénéficieront d'un hébergement un tant soit peu durable. Sans compter toutes celles parties avant, qui devront se débrouiller par elles-mêmes. Au-delà de la question du relogement, les déclarations et les actes des élus grenoblois trahissent régulièrement le fait que, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des dirigeants politiques au pouvoir, les Roms sont à leurs yeux un problème, pour la population, les institutions, la société, avant d'être des personnes vivant dans la misère en raison des discriminations qu'elles subissent. Mise en avant de la délinquance, de la prostitution, des nuisances pour le voisinage, utilisation du mot « démantèlement », qui concerne d'ordinaire les réseaux mafieux et suggère la criminalité, action en justice pour troubles à l'ordre public, toute la panoplie habituelle de stigmatisation de la pauvreté.
Pour terminer cette émission, voici l'agenda des prochains événements sur l'agglomération.
Alors pour commencer cet agenda militant grenoblois, un événement qui se passe tout de suite, parce que c'est à partir de 14h au parc Paul Mistral, À l'occasion de la journée d'inauguration de Grenoble Capitale Verte Européenne, il y a une marche pour l'écologie sociale et populaire qui est organisée pour dénoncer les innombrables mensonges et inactions du gouvernement face aux urgences climatiques et sociales. Il y a un appel à créer un cortège anticapitaliste massif, unitaire et revendicateur au sein de cette manifestation. Et après la manif, qui arrivera au Jardin de Ville, il y aura un temps festif autour d'une galette des rois, puis une assemblée générale pour discuter de la suite de la mobilisation et pour mettre en place un cadre unitaire écologiste et anticapitaliste contre toutes les formes de domination qui sont toujours entremêlées aux questions environnementales. Macron devait être présent, mais au final, il sera là qu'en visio. Et si vous voulez plus d'infos sur cet événement, vous pouvez aller sur le site ici-grenoble.org. Cet après-midi toujours, à partir de 15h, à la MJC Centre Social Abbaye, un place de la commune de 1871 à Grenoble, il y a un événement qui s'appelle Burkina Faso, un peuple debout. C'est prévu pour être un moment d'échange et d'information. C'est l'association Survie qui relaie cet événement qui est organisé par les Amis de la Forge, le journal du PCOF, et qui nous invite à participer aux échanges animés par deux intervenants qui reviendront sur l'insurrection de 2014 et sur les luttes actuelles au Burkina, ainsi que sur la crise sécuritaire et les mobilisations de soutien aux victimes du terrorisme. Et ce soir, de 19h à 23h, il y a le Resto à la Malap, qui est un squat 30 rue Marbeuf à Grenoble. C'est un rendez-vous mensuel où on nous invite à manger des délicieux plats congolais en soutien à des personnes sans papier. L'événement est mixte et c'est possible de manger sur place, mais aussi de prendre à emporter ou en livraison. Alors il faut réserver entre 14h et 16h, au 07 49 87 65 54. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez retrouver ces infos sur le site le-tami.info. Ensuite, on passe au jeudi 20 janvier. À 19h30, le collectif Extinction Rébellion Grenoble, l'antenne locale du mouvement international du même nom, organise une réunion ouverte à toutes les personnes intéressées pour rejoindre les luttes radicales contre les responsables du désastre climatique en cours. C'est au 38 rue d'Alembert, à Grenoble. Et toujours le même soir, à partir de 20h30, à la BAF de Chemin des Alpins, il y a un repas vegan puis une rencontre avec les autoristes de Subtil Béton. Subtil Béton, c'est un roman d'anticipation politique, écrit et dessiné à plein de mains, qui se déroule au début des années 2040. C'est un récit choral dont les multiples voix ricochent pour dépeindre une société modelée par le fascisme, où se répondent la tendresse, les peurs et les espoirs. Entre 2007 et 2021, Subtil Béton a été écrit à partir d'ateliers d'écriture féministe, puis retravaillé, relu et réécrit de nombreuses fois. Ce jeudi 20 janvier 2022, il sort enfin en librairie, publié aux éditions de La Talente, et c'est l'occasion de célébrer ça à la BAF. Toujours à la BAF, le dimanche 30 janvier, de 15h30 à 17h30, il y a le club lecture mensuel Partage ta page, qui est tous les derniers dimanches du mois. C'est un moment pour lire et entendre des textes qui nous plaisent, qui nous marquent, en parler ou pas, autour d'une boisson chaude ou froide, en mixité choisie, sans homme cisgenre. Les textes qu'on privilégie sont ceux d'autrices et d'auteurs minorisés, que ce soit par leur classe, race, genre, neuroatypie, corps hors normes. Et on nous précise, bienvenue aux timides et aux grignotis vegan. Et ce même week-end, 29 janvier, 30 janvier, à la Maison des Habitants Bois d'Artas, 3 rue Augereau à Grenoble, l'association Ancrage propose un stage d'autodéfense pour femmes selon autodéfinition à partir de 17 ans. L'idée de ces stages, c'est de renforcer notre confiance et notre estime de nous, découvrir ou retrouver notre force, prendre confiance en notre capacité à nous défendre, éviter que des agressions se produisent, se reproduisent ou n'augmentent en intensité. Du coup, vous pouvez contacter l'association Ancrage pour voir s'il y a encore des places et vous trouverez toutes les infos sur le-tami.info. Le lundi 31 janvier, de 18h à 19h30, il y a un groupe de parole post-IVG. Une fois par trimestre, le planning familial de l'Isère propose un groupe de parole ouvert à toutes les personnes qui ont réalisé une IVG et qui souhaitent partager leur vécu, quel que soit le moment, le lieu ou la méthode. Deux conseillères conjugales et familiales du planning familial seront présentes. Tout ça, c'est gratuit et confidentiel, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance et ça a lieu au local du planning familial de l'Isère, 30 boulevard Gambetta, à Grenoble. Tous les samedis, de 10h à 12h, dans l'espace bibliothèque au 38 rue d'Alembert, l'atelier discussion autour de la critique de la valeur dissociation. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? On nous précise, la critique de la valeur dissociation propose une analyse radicale du patriarcat capitalisme en partant des catégories développées par Karl Marx telles que la valeur, le travail, l'argent, la marchandise et l'État. Ces catégories ne sont ni neutres ni naturelles, mais dominent l'inconscient humain et participent à notre aliénation. Vous pourrez également savoir plus sur le site du Tami. Et le premier samedi du mois, du coup, ce sera le 5 février pour le prochain à la BAF, c'est PMU, alors qui est un sigle mystère, on nous précise. C'est un moment pour toutes les personnes dont les genres, corps et ou sexualité n'entrent pas dans les normes cis, dyadiques, hétéro. C'est l'occasion de se retrouver autour d'un verre et de faire de la philo de comptoir si on en a envie. Et enfin, à la radio, vous pouvez retrouver Micro-ondes tous les samedis de 13h à 14h sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM. Et vous pouvez également retrouver sur Radio Campus l'émission féministe Dégenrée avec son nouveau format d'une heure. C'est un jeudi sur deux, de 19h à 20h. Un bon week-end et à bientôt sur les ondes.
Et voilà, c'est la fin de cette émission sur les campements aujourd'hui expulsés des Alliés et du Parc Alliance. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de parler des problèmes de logement avec différentes associations militant sur le sujet. À bientôt !